franceinter.fr.
Il est monstrueux, il est très vieux, mais heureusement, il est très éloigné de notre système solaire. C'est un trou noir gigantesque qui est à la une de la science aujourd'hui.
Mon Dieu, tout droit, sorti de l'enfer de Dante.
Oui, la force la plus destructrice de tout l'univers. Rien ne peut lui échapper, pas même la lumière.
J'avais un professeur qui prédisait qu'à la fin des temps, le trou noir pourrait dévorer l'univers entier.
Pourquoi pas ? Quand on voit des gigantesques soleils qui ont été aspirés sans laisser aucune trace...
Ça fait peur. C'est un trou noir supermassif qui intrigue donc les astronomes, avec une équipe internationale qui a publié hier dans la revue Nature la découverte donc de cet énorme trou noir, un objet très éloigné datant du premier milliard d'années de notre univers. Bonjour Alain Riazuelo. Vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, spécialiste des trous noirs, et puis à vos côtés Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Alain Riazuelo, il est énorme ce trou noir. Quelle est sa carte d'identité d'abord pour le présenter aux auditeurs?
Alors, on estime sa masse par plusieurs méthodes qui sont toutes compatibles et qui donnent une masse d'environ 12 milliards de fois la masse du Soleil.
Oui, c'est beaucoup quand même, non ?
Ce qui est beaucoup sur un objet qui est aussi lointain, donc qu'on voit tel qu'il était il y a très très longtemps.
Oui, et comment on fait pour ça, justement, pour le voir tel qu'il était il y a combien de temps d'ailleurs ?
Il y a à peu près 13 milliards d'années, simplement parce que la lumière voyage à une vitesse qui est finie, donc plus l'objet que vous observez est loin, plus vous le voyez tel qu'il a émis sa lumière il y a longtemps.
Oui.
Donc l'univers est de façon naturelle une sorte de machine à remonter le temps.
Vous voyez, c'est ça qui est incroyable. Ouais.
Des époques de plus en plus lointaines à mesure que vous voyez de plus en plus loin. Et donc vous pouvez voir l'univers en évolution en regardant à différentes distances.
Donc on voit la genèse de ce trou noir, Philippe.
Oui, tout à fait, puisque les galaxies qu'on peut observer faiblement à cette distance temporelle aussi, sont les premières qu'on peut observer et les premières qui se sont formées certainement. On est encore en train les scientifiques sont encore en train de savoir à quelle vitesse, à quel rythme tout ça s'est formé, puisque faut voir qu'on a un mur observationnel. C'est pas le Big Bang, c'est 380 000 ans après le Big Bang, donc il y a 13,7 milliards d'années. On ne peut pas aller voir au-delà. Mais par contre, entre ce mur et ce quasar, ce trou noir et ces premières galaxies, on ne voit pas encore grand-chose. C'est une phase qui est très lointaine, très difficile à observer. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir un objet aussi brillant, aussi loin, parce qu'il peut nous renseigner justement sur ce qui se passait à cette époque-là, où quand même on manque encore pas mal d'informations.
Oui. Alors, Alain Riazuelo, il a un petit nom très sympathique, comme toujours. Cet objet, vous l'avez sous les yeux, le nom ? SDSS JO100 plus 2802, en gros, c'est ça.
SDSS, c'est parce qu'il a été découvert par un projet américain qui est le Sloan Digital Sky Survey, donc SDSS, et les chiffres qui suivent, en fait, c'est les coordonnées dans le ciel de l'objet.
On ne va pas les commenter, évidemment.
Voilà. Non,
est-ce que c'est la précocité, justement, de ce trou noir dans l'histoire de l'univers qui étonne, là ?
Alors, en fait,
puisqu'il se serait formé, donc, 900 millions d'années après le Big Bang.
Alors,
c'est très jeune ?
Il s'est formé encore avant cette époque. On l'observe tel qu'il est, 900 millions d'années après le Big Bang, mais comme c'est un trou noir extrêmement massif et comme on ne sait pas comment peuvent se former des objets aussi massifs, on suppose qu'il y a un objet de base beaucoup plus faible qui s'est formé encore avant et qui a peu à peu grossi au cours du temps. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a une sorte de taux de croissance maximum pour des trous noirs.
Ah oui, ça c'est une règle mathématique ?
C'est une règle qui semble relativement difficile à contourner.
Bon, et c'est quoi cette règle alors ? Qu'est-ce qu'elle dit ?
Qui est qu'un trou noir double sa masse au mieux en 40 millions d'années. Donc, il va multiplier sa masse par 1000 en 400 millions d'années. Donc, si vous observez un objet 900 millions d'années après le Big Bang, il a pu multiplier sa masse par 2 ou 4 millions au maximum.
Donc, ça veut dire qu'il était déjà très gros.
Voilà. Et donc, c'est là qu'est le problème, c'est qu'on ne connaît pas de processus astrophysique simple qui permette, en un temps extrêmement bref, de former des objets de... dans ce cas-là, plusieurs milliers de fois la masse du Soleil.
Ouais.
Et donc, on a un problème qui est connu depuis un certain temps, qu'on observe des trous noirs à une époque très lointaine et avec une masse très importante, qui nous suggère qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, soit au niveau de la genèse de ces objets qui peuvent être très massifs, soit au niveau de leur taux de croissance qui, pour une raison très difficilement compréhensible, serait beaucoup plus rapide que ce qu'on pense comprendre.
Voilà, donc un mystère quand même, Philippe.
Oui, quand même un mystère. Il faut savoir, pour remettre un peu cette observation dans son contexte, que ce n'est pas le trou noir le plus massif, ce n'est pas le quasar le plus gros. Il y en a qui ont déjà été détectés, ils sont une poignée, mais... qui sont aussi lointains et qui font pratiquement le triple ou le quadruple en masse. Il y a par exemple un trou noir hypermassif qui est à 300 millions d'années-lumière, c'est-à-dire c'est dans notre univers, c'est à côté, dans une galaxie très proche, un NGC 4887, je crois.
Mais soyez précis, voilà, on apprécie
mais
beaucoup.
Je crois que je ne me trompe pas.
Oui.
Et qui, dont la masse est estimée à environ 20 milliards de masses solaires. Donc, il y a certains trous noirs qui ont été observés comme ça, certains quasars, puisque les quasars sont des trous noirs qui, par leur environnement très lumineux, peuvent être observés très loin. Sinon, un trou noir, ça ne se voit pas en général. Il y en a qui ont été observés très loin et aussi avec des grandes masses. Pas aussi loin que celui-là, mais effectivement, ça rentre dans ce mystère.
Axel, sur le mot-clé l'attaque, il y a des messages.
Oui, il y a Lou Ténébreux qui s'inquiète. Il s'inquiète de savoir si un trou noir peut être comblé ou disparaître.
Alain Riazzolo.
Alors, disparaître, sur le très long terme, c'est probablement possible, mais le très long terme, on parle de durées qui sont beaucoup plus grandes que l'âge de l'univers.
La durée de l'univers, oui.
Ça nous concerne guère. Est-ce qu'un trou noir peut se combler ? Non, pas vraiment. Tant qu'il a de la matière à proximité, il peut éventuellement la capturer. Donc, a priori, sa masse ne fait qu'augmenter, sauf sur des durées extrêmement longues. Donc, ces objets sont là pour durer.
Et celui-là se trouve à 12,9 milliards d'années-lumière de nous. Hein. Donc c'est beaucoup de kilomètres, tout ça. Il faut multiplier une année-lumière par 10 000 milliards de kilomètres.
C'est ça.
Donc c'est assez loin, on n'a pas trop de risques. Quelles sont les hypothèses, Alain Riazzolo, pouvant expliquer la formation quand même de ce trou noir supermassif?
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Quand on dit qu'on ne sait pas comment ces objets se forment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées. Ça veut dire que toutes les idées qu'on a sont toutes, pour une raison ou pour une autre, insatisfaisantes. Donc la première idée, c'est que très tôt, dans la première microseconde de l'histoire de l'univers, il y ait une distribution de matière suffisamment inhomogène pour former ces objets-là. Alors, ce qui ne marche pas pour des raisons observationnelles un peu subtiles qui font que ces objets, s'ils existaient aussitôt, devraient avoir laissé des signatures observationnelles qu'on ne voit pas. Ou l'autre possibilité, c'est de supposer que, pour une raison mal comprise, il y a de la matière qui est canalisée et qui tombe presque de façon rectiligne vers le centre des galaxies et qui peut nourrir donc un objet de façon extrêmement efficace. Mais ça, c'est peu probable parce que si vous avez beaucoup de matière, vous avez a priori beaucoup d'étoiles qui peuvent se former, donc des étoiles massives qui sont susceptibles d'exploser en supernova. Et l'onde de choc de cette supernova va fortement déranger cet écoulement et donc le tarir ou en tout cas le ralentir beaucoup. Donc quels que soient les processus qui ont été envisagés, il y a toujours une raison qui fait que ça n'a pas l'air convaincant.
Bon, en tout cas, il y a des choses intéressantes à apprendre sur la genèse de notre univers quand même, Philippe.
C'est un objet, un élément qui va permettre de continuer cette exploration. Pris isolément, il n'a pas un grand intérêt.
Cassez pas toute notre publication
Non, c'est une publication. C'est une publication sérieuse. C'est des mesures sérieuses, c'est intéressant.
Oui.
Mais ce sera intéressant dans un ensemble, dans un contexte actuel de recherche sur cette zone de l'univers, sur cette époque de l'univers.
Soyez pas rabat, on vous surveille.
Non.
Alain Riazzolo, c'est une belle bête quand même. Hein,
oui, absolument. C'est précisément parce que c'est pas le premier qu'on trouve et qu'il est encore plus extrême que ce qu'on trouve qu'on se dit qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas. S'il y avait qu'un seul objet, on pourrait toujours dire on a mal évalué sa masse, etc. Là, c'est le 41e objet situé à cette distance qui est très gros. Il est encore plus gros que les autres. Sa masse est évaluée de façon très convaincante, donc il y a vraiment quelque chose à étudier.
Voilà, 12 milliards de fois la masse de notre Soleil. Voilà. Et c'est une publication parue dans la revue Nature hier. Merci beaucoup à tous les deux. Axel, merci aussi.
À demain.
Et à demain.